Laudetur Jesus Christus.
Les appels pour la paix de plus en plus nombreux dans la société israélienne. Les familles des otages appellent à une grève ce dimanche. Au Nigeria, l'armée frappe des rebelles depuis le ciel, une première dans le pays. Nous retrouverons notre correspondant à Abuja. Les Boliviens votent dimanche pour élire leur prochain président. Alors que la société est très polarisée, doit-on s'inquiéter de violences post-électorales comme en 2019 ? Analyse à suivre. Et puis enfin, nous irons en Colombie, où Miguel Uribe, candidat à la présidentielle visé lors d'un attentat en juin, est finalement mort de la suite de ses blessures.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. La chef de l'opposition israélienne Yair Lapid appelle à son tour à la grève ce dimanche. Une grève de solidarité avec tous les otages israéliens à Gaza, lancée par les familles d'otages. Le mouvement est aussi contre le plan d'occupation de Gaza, décidé par Benjamin Netanyahou. Déjà samedi, des dizaines de manifestants étaient dans les rues de Tel Aviv pour appeler à la fin de la guerre. À Tel Aviv, Julia Ganancia.
À Tel Aviv, la contestation monte d'un cran. Le Forum des familles des otages a appelé à une grève générale dimanche prochain pour manifester contre la poursuite de la guerre et la validation par le gouvernement d'un plan de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza. Pour ces familles, le plan d'occupation dévoilé par Benjamin Netanyahou est une condamnation à mort. Le Hamas a d'ailleurs averti que cette opération mènerait, je cite, au sacrifice des otages. La Histadrut, principale fédération syndicale du pays, a d'ores et déjà fait savoir ce lundi qu'elle ne prendrait pas part à cette nouvelle grève générale. Le barreau israélien s'est lui dit solidaire du mouvement. Après 22 mois de guerre, Benjamin Netanyahou est confronté à une très forte pression en Israël sur le sort des 49 otages encore aux mains du Hamas et à l'étranger pour faire taire les armes dans la bande de Gaza. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et toujours sur la guerre à Gaza, cet appel du groupe des sages, un groupe de personnalités internationales fondé par Nelson Mandela, qui compte par exemple Ban Ki-moon. Ce midi, il dénonce un génocide, je cite, en cours à Gaza. Les sages qui appellent Israël à ouvrir immédiatement tous les points de passage transfrontaliers vers le territoire palestinien, y compris celui de Rafah, pour laisser entrer l'aide humanitaire. La signature d'un accord de paix avait fait naître de vagues espoirs, mais dans l'est de la RDC, les combats continuent entre l'armée congolaise, soutenue par des milices locales, et le M23. Depuis vendredi, les violences ont lieu autour de Moulamba, dans le sud Kivu, où jusqu'ici la ligne de front était relativement stable. En Côte d'Ivoire, plusieurs membres du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, inculpé hier pour acte terroriste, accusé d'avoir mis le feu à un bus et dégradé une voiture de police dans la commune de Yopougon. À deux mois de la présidentielle, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire dénonce une opération d'intimidation et, je cite, un harcèlement judiciaire et politique. Et puis notons qu'en Côte d'Ivoire, une chaîne de prière nationale pour la paix aura lieu du 15 au 25 août, une initiative du père Abbé Kan. Au Nigeria, des frappes aériennes de l'armée de l'air et de la terre menées dans l'état de Zamfara. Elles ont fait plus d'une centaine de morts parmi les bandits armés dans la forêt de Makakari. L'état de Zamfara au nord-ouest, où surviennent des violences depuis plusieurs mois, des dizaines de civils ont été tués. À Abuja, Ishaka Adegboye.
L'opération impliquait des frappes aériennes de précision et des assauts terrestres, tuant plusieurs barons notoires et de nombreux combattants dans la forêt de Makakari dans l'état de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria. La synergie entre les composantes aériennes et terrestres des forces armées nigérianes a rendu cette opération exceptionnelle. Les agents de renseignement de l'opération Fazanyama de l'armée nigériane avaient repéré des mouvements inhabituels dans l'axe des refuges bien connus des bandits spécialisés dans le vol de bétail, réclamant des taxes sur les agriculteurs et du kidnapping contre rançon. L'opération a débuté par l'armée de l'air effectuant des descentes à basse altitude, lançant des frappes de précision sur des groupes de bandits identifiés par des drones de reconnaissance. Pour la population de l'état de Zamfara, c'est un ouf de soulagement après de nombreuses violences dont elle a fait face ces derniers temps. Ishaka Deboye, Radio Vatican, Abuja.
De nouveaux ordres d'évacuation au Japon. 3 millions de personnes au total sont maintenant concernées. Dans certaines villes du sud-ouest, l'eau atteint 1 mètre de hauteur. Des pluies diluviennes qui arrivent après un épisode de chaleur de record absolu. On a compté 41,8 degrés dans la banlieue de Tokyo. Et en Irak, le mercure atteint 50 degrés à Bagdad, la capitale. Conséquence, le réseau public d'électricité vétuste était presque totalement coupé hier, et cela dans tout le pays. Sous l'effet des fortes chaleurs et de la forte demande, de nombreux foyers sont cependant dotés d'un générateur. Le dossier de l'électricité est très sensible en Irak, pourtant riche en hydrocarbures, mais aux infrastructures en déliquescence. En Bolivie, l'élection présidentielle de dimanche s'annonce inédite. Pour la première fois depuis 20 ans, le MAS, le parti de gauche au pouvoir, pourrait être destitué. Les deux candidats en tête des sondages sont de droite et de centre-droit. Et le président sortant, Luis Arce, accablé par les protestations sociales, a dû renoncer à se présenter. De son côté, Evo Morales, trois fois président, est empêché par les limites de mandat. Il fait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt dans une affaire de traite de mineurs. Dans une Bolivie très polarisée, les partisans d'Evo Morales appellent au vote blanc, tandis que leur leader est retiré dans son fief. Alors doit-on craindre que le scrutin ne dégénère à l'image des violences post-électorales de 2019? Eh bien, difficile de le prévoir, selon Élise Gadea, docteur en sociologie de l'IAL et chercheur associé à l'IFEA. On l'écoute.
C'est assez difficile de dire, puisque en 2019, il y avait bien sûr une certaine tension, mais aucun analyste politique n'avait prédit ce qui allait se passer. Et finalement, les extrêmes tensions et les violences qui ont conduit à la destitution forcée d'Evo Morales. Et alors que curieusement, dans les élections qui ont eu lieu après, là, par contre, il y avait une tension très très importante. Il y avait énormément d'observations, même depuis l'étranger, pour voir qu'est-ce qui allait advenir de ces élections, qui finalement se sont très très bien déroulées. Donc, c'est assez difficile, je dirais, de pouvoir prédire en termes sécuritaires ce qui peut se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est tendu. Mais après, il faut savoir qu'Evo Morales est toujours retranché dans son fief, qu'il a toujours voté depuis 2005 dans ce bureau de vote-là. Donc en soi, le fait qu'il soit présent dans le Chiapas n'est pas un signe finalement inquiétant. Ce qui peut par contre l'être, c'est plutôt effectivement la polarisation au sein de la société bolivienne. Ce serait plutôt effectivement la situation économique du pays et tous ces facteurs-là qui peuvent effectivement mettre un peu le feu aux poudres très très facilement.
Élise Gadea, docteur en sociologie de l'IAL et chercheur associé à l'IFEA, l'Institut français des études andines. En Colombie, la violence politique frappe à nouveau. Le sénateur et candidat à la présidentielle Miguel Uribe est décédé hier à l'âge de 39 ans, 2 mois après avoir été victime d'un attentat. Un drame qui rappelle les heures sombres de l'histoire colombienne et relance l'appel au dialogue et à la paix. À Bogota, Camille Bouju.
Après 2 mois de lutte, la nouvelle est tombée. Miguel Uribe Turbay n'a pas survécu. Début juin, alors qu'il tenait un meeting dans un parc de Bogota, le sénateur de 39 ans avait été touché par plusieurs balles. Fils de la journaliste Diana Turbay, tuée en 1991 lors d'une opération de libération, Miguel Uribe était candidat déclaré à la présidentielle de 2026. Figure montante de la droite colombienne, il prônait la sécurité, y compris par le port d'armes. Son décès envoie un signal inquiétant sur le climat politique qui entoure la prochaine présidentielle. La Colombie a une longue histoire d'assassinats politiques, de Jorge Gaitán en 1948 à Luis Galán et Carlos Pizarro à la fin des années 80. Aujourd'hui encore, menaces et attaques visent régulièrement élus et leaders locaux, surtout dans les zones du pays contrôlées par des groupes armés. Alors à moins d'un an du scrutin, la violence reste une menace bien réelle pour les candidats et un défi pour la démocratie colombienne. Bogota, Camille Bouju pour Radio Vatican.
Et à noter la réaction de la Conférence épiscopale de Colombie, la CEC, les évêques condamnent fermement cet assassinat de trop, je cite, expriment leur solidarité à la famille de l'ancien membre du Congrès. Plus de détails sur cet appel des évêques de Colombie sur notre site internet. Enfin, avant de se quitter, sachez que demain, en raison des températures très élevées à Rome, l'audience générale de Léon XIV n'aura pas lieu place Saint-Pierre, mais en salle Paul VI. Enfin, des écrans seront également installés dans la basilique Saint-Pierre pour les personnes qui n'ont pas pu se rendre en Paul VI et où se rendra ensuite le pape pour saluer les fidèles. Merci de votre écoute. L'actualité du pape, du Vatican et de l'Église dans le monde est à suivre sur notre site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.